France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La mort du comédien Jean Rochefort, à l'âge de 87 ans ce matin, évocation dans un instant de Cécile de Kervas-Doué. L'actualité sociale, les fonctionnaires en grève demain à l'appel de tous leurs syndicats. Deux semaines après l'entrée en vigueur des ordonnances, les syndicats tentent ce soir de reformer leur unité. Analyse avec Annabelle Grelier. Le budget à l'épreuve de l'Assemblée, demain également. Le président des députés macronistes confirme le dépôt d'amendements au projet de loi de finances 2018 pour taxer les signes extérieurs de richesse qui avaient été exonéré par la réforme contestée de l'impôt de solidarité sur la fortune. Explication avec Stéphane Robert. En Catalogne, la pression est maintenant maximale sur le dirigeant séparatiste qui n'écarte pas demain donc de proclamer l'indépendance. Si, dit-il, Madrid refuse toute médiation. Situation suivie pour nous par Sébastien Berriot. En Allemagne, Angela Merkel annonce pour la semaine prochaine le début de négociations pour former une coalition. Elle accepte un objectif de plafonnement annuel du nombre de réfugiés en Allemagne. Correspondance de Cyril Sauvageau. Le prix Nobel d'économie attribué à un Américain, Richard Thaler, de l'Université de Chicago, pour des travaux sur les mécanismes psychologiques et aussi sociaux à l'œuvre dans les décisions des consommateurs ou des investisseurs. Précision de Lise Verbeck. L'invité de la séquence interview, Stanislas Guérini, député La République En Marche. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Un monde commun est-il encore possible à voir avec le philosophe et anthropologue Bruno Latour, qui est notre invité à partir de 12h55. Il est en quête, lui, de nouveaux repères qui nous permettraient d'organiser un peu mieux les rapports des hommes entre eux, mais aussi les rapports des hommes avec la nature. Son nouvel essai « Où atterrir » paraît cette semaine à La Découverte.
Un des acteurs donc les plus populaires du cinéma français avec la série du Grand Blond, un éléphant, ça trompe énormément, acteur élégant, attachant, populaire, un grand maître, dit à l'instant la ministre de la Culture Françoise Nyssen. Bonjour Cécile de Kervas-Doué.
Bonjour.
Jean Rochefort est donc mort la nuit dernière à l'âge de 87 ans.
Oui, c'est une icône du cinéma français qui s'éteint. Jean Rochefort avait à son actif près de 150 films sur petit et sur grand écran. Césarisé deux fois pour Que la fête commence de Tavernier en 76 et Le crabe tambour de Schoendoerfer en 78. Il est d'abord surtout connu pour ses seconds rôles. C'est d'ailleurs son ami Jean-Paul Belmondo qui le propulse au cinéma en le recommandant pour le film Cartouche de Philippe de Broca. Car Jean Rochefort, c'est d'abord une bande, la bande du Conservatoire d'Art Dramatique de Paris, celle de Claude Riche, Jean-Pierre Marielle ou Jean-Paul Belmondo. Il se lira aussi d'amitié avec Philippe Noiret. Dans cette bande, racontait-il, il y avait surtout l'envie d'oublier la guerre et l'après-guerre par le rire et surtout une grande dose d'autodérision. Tout en jouant de grands textes au théâtre, c'est donc surtout dans des comédies qu'il marque les esprits avec des films comme Un éléphant, ça trompe énormément, La grande cuisine, la série du Grand Blond, puis Ridicule, Le placard ou Ne le dit à personne, là où son flegme et son humour font date. Et c'est ainsi qu'en 2015, il participe aussi à la série Le bolos des belles lettres, afin de faire connaître les grands textes de la littérature française avec des mots nouveaux.
C'est l'histoire d'un petit puceau tout mou comme les chocs à pic au fond de l'Orbonne. Il plane à 10 000 et tu sens le malaise en lui. Son blase, c'est Charbonvary. Il rencontre une petite zouze campagnarde pas dégueulasse. Elle s'appelle Emma. C'est elle le héros. C'est Madame Bovary. Donc là, t'as résolu la première énigme du père Fouras.
Et Jean Rochefort était également connu pour avoir joué dans une foultitude de nanars, parfois même de complets fours au cinéma, mais qui, disait-il, était l'avoine et le foin, c'est-à-dire des films qui lui permettaient de nourrir son autre grande passion, celle des chevaux et de l'équitation, qu'il avait d'ailleurs découverte lors du tournage de Cartouche.
Merci Cécile de Kervas-Doué. Encore un mot, Olivia Jesbert.
Oui, Jean Rochefort avait accordé un long entretien à Arnaud Laporte dans le cadre des Avoinues de France Culture. On va écouter un extrait où il parle de son métier d'acteur.
Il était de mon devoir, il est toujours de mon devoir, de ne montrer aucun agacement par rapport à ça. Et bien au contraire, d'entrer en contact avec les gens dans la rue, de les écouter, parce que beaucoup me racontent leur vie. Et j'ai la sensation à ce moment-là d'avoir eu un métier social qui a son importance et son intérêt. J'apporte du bonheur aux gens, et il y a un partage dans la rue. Je me sens exister vraiment depuis cette popularité. Mon ami Belmondo m'avait dit un jour, sans le public, que serions-nous ? C'est tout à fait vrai.
un partage dans la rue et un partage à l'écran. C'était donc Jean Roquefort en 2012 avec Arnaud Laporte. Cette série d'Avoigneux est à retrouver sur le site de franceculture.fr.
C'est une première depuis 10 ans. Tous les syndicats de fonctionnaires appellent demain une grève pour faire entendre, disent-ils, leur profond désaccord avec les mesures annoncées par le gouvernement. Les concernant, les services publics devraient être affectés, en particulier les écoles, les crèches. Des perturbations aussi attendues dans les transports, les hôpitaux ou les services postaux. Et puis, pour la première fois depuis le début du quinquennat, cette fois, tous les syndicats vont se retrouver ce soir pour tenter d'organiser une action commune, peut-être plus large. La CGT, la CFDT, FO, CFE-CGC, la CFTC, Solidaire, l'UNSA, la FSU, mais aussi des organisations de jeunesse ont rendez-vous tout à l'heure à 18h pour réfléchir à une action unitaire face au projet du gouvernement. Le secrétaire général de la CGT se fixe l'objectif d'organiser une grande journée unitaire. Philippe Martinez sur Inter ce matin.
Nous allons réfléchir sur la possibilité de faire converger tous ces mécontentements. L'objectif, c'est d'organiser une grande journée unitaire où, justement, on pourra faire converger les fonctionnaires, les retraités, les cheminots, la RATP, les salariés du privé, parce qu'il y a beaucoup de mécontentements et il y a des propositions, chaque syndicat a des propositions, mais des propositions alternatives pour corriger ce qui ne va pas dans ce pays. Et rabattre un peu le caquet du président de la République et du gouvernement qui, je vous le dis, essaye en permanence de diviser les citoyens entre eux, mais qui ménagent toujours les mêmes.
Voilà, Philippe Martinez qui était sur France Info, qui veut rabattre le caquet du gouvernement. Et pour la CFDT, bien Laurent Berger affirme que pour pouvoir peser effectivement sur la réforme de l'assurance chômage notamment, sur la réforme aussi de la formation professionnelle, les syndicats ont intérêt à parler d'une seule voix. Quant à Jean-Claude Mailly, pour Force Ouvrière, il déclare être prêt lui aussi à défiler avec tout le monde. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Que se passe-t-il? Le chef de l'État semblait avoir gagné cette première manche en réformant par ordonnance le droit du travail. Les sujets de mécontentement paraissent se multiplier sur sa route. Il pourrait voir se lever peut-être une vague de contestation plus importante pour les réformes qui vont suivre. Est-ce qu'il y a des conditions de cristallisation d'un mouvement unitaire d'une certaine ampleur ou pas, selon vous?
Eh bien, pas vraiment, Antoine. Si tous les syndicats sont d'accord pour se réunir ce soir, ils sont loin d'être d'accord sur les objectifs. Si on prend Force Ouvrière, le syndicat majoritaire chez les fonctionnaires, son secrétaire général, Jean-Claude Mailly, a bien déclaré qu'il était prêt à défiler avec tout le monde, mais à condition qu'on soit d'accord. Une condition qui forcément limite l'impact de la déclaration. Force Ouvrière a validé cet été une grande partie des ordonnances de la loi travail. Il ne reviendra pas dessus. Seuls quelques points font défaut, selon le syndicat, notamment sur les instances représentatives du personnel et les prud'hommes. Force Ouvrière reste néanmoins partant pour une journée d'action unitaire. Reste à en préciser la date et la ligne. Du côté de la CFDT, aucune chance qu'elle participe à une telle journée d'action contre les ordonnances sur la loi travail, pour la simple et bonne raison qu'elles sont déjà en application, répond sa numéro 2, Véronique Descac. On ne va pas demander à des salariés de perdre une journée de salaire pour aller à une manifestation dont on sait déjà avant qu'elle ne commence qu'elle ne servira à rien, affirme-t-elle. Non, ce qui intéresse désormais la CFDT, ce sont les réformes à venir sur la formation professionnelle et l'assurance chômage. Pour la CGT, qui est l'instigatrice de cette grande réunion intersyndicale ce soir, il s'agit en effet de continuer à s'opposer aux ordonnances et de réfléchir ensemble à la convergence des luttes. Un ordre du jour qui n'a pas suscité plus d'enthousiasme que cela, puisque ni FO, ni la CFTC, ni l'UNSA, ni la CFE-CGC ne seront représentés ce soir par des membres de leur direction. Alors, convergence des luttes, il y aura au moins demain sur la question des fonctionnaires. Toutes les catégories d'agents de droit public et de droit privé ont une bonne raison de descendre dans la rue. Salaire, réinstauration du jour de carence, baisse des effectifs, coupe budgétaire, gel du point d'indice, hausse de la CSG, des mesures qui touchent tous les secteurs et qui devraient donc largement mobiliser, même si la direction de la CNCF a d'ores et déjà annoncé peu de perturbations dans les transports pour demain. La CGT, le syndicat majoritaire dans cette branche, n'a pas appelé à débrayer, seulement inciter les cheminots par solidarité à rejoindre les cortèges de fonctionnaires.
Merci Annabelle Grelier. Alors pendant que les fonctionnaires seront dans la rue, le gouvernement va passer lui l'épreuve du budget à l'Assemblée nationale, puisque les députés en commencent demain l'examen. Projet de loi finance déjà très décrié, souvent taxé de budget des riches. Pour l'ancien ministre ministre Michel Sapin, ce budget 2018 est favorable non pas aux riches mais aux très très riches du fait de la réforme de l'ISF et de l'instauration de la flat tax sur les revenus du capital. Le gouvernement s'efforce en tout cas de modifier cette image, cette étiquette qui lui est collée. Les députés La République En Marche, Stéphane Robert, seront chargés sans doute de rectifier partiellement le tir demain.
Oui, ils vont essayer de faire en sorte que ce budget apparaisse comme un budget équilibré, essayer de gommer cette image de budget pour les riches qui essaie d'être accroché comme une patelle sur son rocher. Et ce ne sera pas facile, car beaucoup de ce qui est envisagé pour le moment relève du symbolique, comme cette taxe que les députés de La République En Marche veulent instaurer sur les yachts. Il y a très peu de yachts immatriculés sous pavillon français et on parle d'un rendement d'environ 10 millions d'euros. On est là bien loin du souci d'efficacité revendiqué par le nouveau pouvoir en place. Ils veulent également alourdir la fiscalité sur les voitures de luxe, la cession d'objets précieux. Là encore, on reste dans le domaine du symbole. Bref, ce sera difficile de modifier cette image. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine, on a cette mesure symboliquement très forte qu'est la suppression de l'impôt sur la fortune, remplacée par une taxe sur la fortune immobilière, qu'elle vient s'ajouter au regard des Français à cette autre mesure, au pouvoir symbolique extrêmement puissant qu'est la réduction des APL de 5 euros. On peut mettre aussi dans la balance le fait qu'on a un président de la République ex-banquier d'affaires ou encore le plafonnement des indemnités prud'homales contenues dans la réforme du Code du Travail. Vous voyez que beaucoup de choses concourent à renvoyer cette image d'une politique faite plutôt en faveur des riches. Et pour ne rien arranger, mais ça le gouvernement n'y peut rien, hein, le Conseil constitutionnel, c'était vendredi dernier, vient tout juste de retoquer la taxe de 3% sur les dividendes, taxe mise en place par François Hollande en 2012. Alors ce qui reste aussi au gouvernement comme outil de déminage, ce sont les éléments de langage. On l'a entendu ce matin avec Bruno Le Maire qui a parlé d'une ânerie concernant la théorie du ruissellement. Et puis le Premier ministre, Édouard Philippe, s'efforce de répéter que l'idée générale de sa politique est de privilégier une fiscalité qui favorise l'investissement au détriment de la rente pour relancer la machine. Malgré ça, cette image de politique en faveur des riches semble s'ancrer dans l'opinion, ce que ne manque pas de relever l'opposition à la majorité présidentielle.
Merci beaucoup Stéphane Robert. Bonjour Stanislas Guérini.
Bonjour.
Vous êtes donc député de La République En Marche, membre de la commission des finances. Bon, c'est vous qui êtes à l'œuvre là pour essayer de rectifier cette image. Bon, si la théorie du ruissellement est une ânerie, comme le dit le ministre de l'économie ce matin, pourquoi donner des avantages ou en tout cas baisser la fiscalité pour les plus riches ?
D'abord, je voudrais corriger une idée qui est celle qu'on va rectifier les choses. On ne va pas du tout rectifier les choses à travers nos amendements, puisque nous sommes totalement à l'aise avec l'équilibre qui est celui du budget qui a été proposé par l'exécutif, qui est un budget qui est équilibré, qui est un budget progressiste contre, effectivement, les conservatismes et les conservateurs. Je ne peux pas laisser dire, avant même de parler des amendements, que ce serait un budget pour les riches qui s'appuierait sur la théorie du ruissellement, quand on va diminuer, on va supprimer pour 80% des Français la taxe d'habitation. Quand on va augmenter le minimum vieillesse de manière inédite, plus 100
D'accord,
euros.
Mais les amendements que vous
quand
êtes
on va
en train
augmenter
de
l'allocation
faire,
à
ils sont
handicapé.
Quand même sur la taxation, disons, de ce qui est le plus visible, ce qui a pu choquer quand mais même.
Une partie très mineure des amendements qu'on est en train de faire est sur ce sujet-là. Alors je comprends que le débat médiatique cristallise sur ce point. Si vous voulez qu'on vienne sur ce point précisément, qu'est-ce qu'on va faire ? On va effectivement supprimer l'ISF, parce que c'est notre conviction. Cet impôt ne fonctionne pas bien. Il n'est pas utile à la France, aux Français, à tous, je veux dire, pour qu'on puisse investir dans le pays. Et donc, on prend une première mesure qui est de supprimer l'ISF et de remplacer l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière qui aura une assiette très lisible avec une idée qui est que l'épargne des Français, il faut qu'elle aille un petit peu plus dans le capital productif, celui qui est utile pour
en
le
fait,
pays.
En fait, c'est pour défavoriser
un peu moins la rente,
l'immobilier.
Bon. Un peu plus. Non, c'est pas pour défavoriser l'immobilier, puisque pour l'immobilier, rien ne bouge. Ceux qui payaient l'ISF avant, à travers l'impôt sur la fortune immobilière, ils paieront la même chose. Donc on ne touche pas à cette partie-là. Et en revanche, on dit à celui qui a de l'épargne, de manière un peu importante, puisqu'on est en train de parler aux gens qui actuellement payent l'ISF, au lieu d'acheter un immeuble, investis dans une boîte. C'est ça le message qu'on est en train de passer. Donc le sens de cette politique, c'est au fond une politique qui fait confiance au pays pour qu'on puisse investir dans l'avenir du pays.
Stanislas Guérini, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour la séquence interview. On parle à l'étranger avec d'abord la Catalogne et cette question, est-ce que le président de la région va proclamer ou non demain l'indépendance? Il va prononcer en tout cas un discours au Parlement. Nous avons dit oui à toutes les possibilités de médiation qui nous ont été présentées, a-t-il dit hier. Les jours passent et si l'État espagnol ne répond pas de manière positive, nous ferons ce que nous sommes venu faire, a dit donc Carles Puigdemont dans une interview, un entretien à la télévision publique catalane diffusée dimanche soir. On apprend d'ailleurs à l'instant que la haute cour de Madrid demande de fournir un dispositif policiers supplémentaires pour protéger ces locaux au cas où le Parlement proclamerait donc l'indépendance de la région. Effectivement, la tension monte beaucoup et les pressions sur les Catalans, pressions économiques et politiques, se font de plus en plus fortes aussi sur le gouvernement. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, va-t-il le faire ?
Alors officiellement, demain à 18h, le président catalan Carles Puigdemont vient au Parlement régional pour commenter l'actualité du moment, l'actualité politique. C'est un ordre du jour qui est prévu dans le règlement du Parlement, un petit peu l'équivalent chez nous des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. La stratégie, c'est de maintenir cet ordre du jour qui est tout à fait légal. Les indépendantistes ne s'exposeraient pas ainsi à une suspension de la séance par le tribunal constitutionnel. Mais une fois à la tribune, Carles Puigdemont va-t-il se contenter de faire du commentaire et de participer à un débat classique après le référendum? C'est peu probable. L'ordre du jour pourrait être modifié à la dernière minute pour permettre un vote sur l'indépendance. On peut dire que le président de la Generalitat n'a pas vraiment le choix. La pression des indépendantistes les plus radicaux est très forte, y compris au sein de la propre majorité de Carles Puigdemont. Les députés de la CUP, petit parti d'extrême gauche qui soutiennent la coalition au pouvoir à Barcelone, demande avec insistance une déclaration d'indépendance dès maintenant. C'est également le cas de la puissante association ANC qui organise chaque année les énormes manifestations dans les rues de Barcelone en faveur de l'indépendance. Carles Puigdemont ne peut pas se permettre de décevoir ces centaines de milliers de Catalans que représente cette association. Dans le même temps, le président de la Generalitat doit tenir compte de tout ce qui s'est passé ces dernières heures et ces derniers jours. La peur de l'instabilité qui fait fuir les banques et certaines entreprises, le réveil hier des anti-indépendances. On pourrait donc avoir demain une solution intermédiaire, une proclamation symbolique sans mesure concrète derrière pour le moment. Carles Puigdemont, par exemple, n'appellerait pas, comme certains de ses partisans lui demandent, à un départ des forces de sécurité espagnoles de la Catalogne.
Voilà, donc peut-être proclamation symbolique, mais est-ce que cela va suffire à mettre un terme à l'escalade qui continue entre Barcelone et Madrid?
Non, pas du tout, hein, parce que pour Madrid, une proclamation d'indépendance, qu'elle soit symbolique ou bien plus concrète, serait dans tous les cas un geste inacceptable et illégal. Et le gouvernement espagnol a réitéré ce matin sa menace. Si cette option est retenue, Madrid mettra tout en œuvre pour mettre en place la mesure tant redoutée par les indépendantistes, la suspension du statut d'autonomie. Le président catalan et ses ministres perdraient alors toute forme de pouvoir et de légitimité. La journée de demain à Barcelone s'annonce extrêmement tendue, notamment autour du Parlement, où un important dispositif de sécurité est d'ores et déjà en place.
Merci et on vous y retrouve bien sûr demain, Sébastien Berriot, à 7h06. Si la Catalogne déclarait unilatéralement son indépendance, demain la France ne la reconnaîtrait pas, déclarait hier la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau.
Midi 48 sur France Culture, la suite de votre journal, Antoine, merci. Avec l'Allemagne, la chancelière est toujours à la recherche d'une coalition. Elle a accepté hier pour la première fois un objectif de plafonnement annuel du nombre de réfugiés.
Un projet de compromis, effectivement, conclu lors d'une réunion de crise à Berlin entre l'Union chrétienne démocrate, que préside la chancelière, et son allié bavarois, CSU, qui parle donc d'un objectif à l'avenir de 200 000 migrants par an. Angela Merkel cède en fait à la pression de sa famille politique conservatrice, qui réclamait un durcissement. Cyril Sauvageau, bonjour.
Bonjour.
Et apparemment, les choses avancent pour ce gouvernement, puisque la chancelière annonce une date pour le début des pourparlers mercredi prochain.
Et avec ce compromis sur la question migratoire, le bloc conservateur CDU-CSU va se présenter un peu plus uni à l'ouverture des négociations. C'était un sujet de discorde depuis 2 ans, mais jusqu'ici Angela Merkel avait toujours rejeté l'idée d'un plafonnement. D'ailleurs, le terme Obergrenze, limite maximale, qui était la revendication phare des conservateurs bavarois de la CSU, ce mot n'apparaît pas dans le document signé hier. Plus qu'un quota de 200 000 réfugiés par an, il s'agit selon Angela Merkel d'un objectif annuel. Une façon pour la chancelière de dire qu'elle n'a pas cédé sur l'essentiel. Il s'agit pourtant d'un tournant inévitable après les mauvais résultats des législatives et la poussée des populistes, mais ce changement de cap risque de compliquer la donne. Les Verts, partenaires possibles de la future coalition, ne sont pas du tout convaincus. Ils avaient dit pendant la campagne qu'ils n'entreraient pas au gouvernement en cas de plafonnement du nombre de réfugiés. Angela Merkel va donc devoir les convaincre de changer d'avis.
Un tout petit mot du fond, peut-être aussi, comment est-ce qu'on met en œuvre cet objectif de 200 000 par an ?
Alors une précision, le chiffre de 200 000 ne concerne que les réfugiés humanitaires. L'immigration économique n'entre pas dans le calcul. Les conservateurs proposent autre chose, une loi d'immigration qui visera à réguler la main-d'œuvre étrangère en fonction des besoins de l'économie. Et puis, c'était très important pour Angela Merkel, il n'y aura pas de restriction du droit d'asile. Si une nouvelle crise majeure se produit, du type de l'été 2015 avec la guerre en Syrie, le Bundestag sera consulté pour éventuellement assouplir la règle.
Cyril Sauvageau, en direct de Berlin. Merci. On dit un mot du prix Nobel d'économie attribué il y a une demi-heure environ à l'américain Richard Thaler, prix Nobel d'économie donc attribué pour ses travaux sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui sont à l'œuvre dans les décisions économiques, que ce soit des consommateurs ou des investisseurs. Bref, quand économie et psychologie doivent sans doute faire bon ménage. Lise Verbeek.
Richard Thaler, 72 ans, a été récompensé pour sa recherche sur la finance comportementale, c'est-à-dire donc utiliser la psychologie pour tenter de comprendre des phénomènes observés en finance. La finance comportementale remet en question le postulat de base de la finance moderne, à savoir des investisseurs rationnels qui prennent des décisions rationnelles et rendent les marchés efficients. La finance comportementale permet donc de mettre en lumière des situations où justement les marchés ne sont pas efficients et de trouver une explication en analysant la psychologie de ces investisseurs. Richard Thaler a montré l'emprise de certaines caractéristiques humaines sur les orientations du marché, comme par exemple les préférences sociales, la peur ou encore l'excès de confiance. Cette économie comportementale existe depuis une trentaine d'années, mais la théorie a été officiellement reconnue en 2002, justement quand le père de cette nouvelle économie, Daniel Kahneman, a reçu le prix Nobel d'économie. Richard Thaler est donc le 79e lauréat du prix, un prix qui récompense en grande majorité des Américains, rattachés à l'université de Chicago, l'une des plus prestigieuses et influentes du monde. Richard Thaler réunit ces deux critères, il ne fait donc pas exception. Pourtant, d'autres noms circulaient parmi les favoris, notamment celui de la Française Esther Duflo, spécialisée dans l'économie du développement.
Lise Verbeek. Merci beaucoup. Retour vers notre invité, donc Stanislas Guérini, et question de Stéphane Robert.
Monsieur Guérini, on a vu ces derniers jours, on a l'impression qu'il y a une certaine fébrilité au sein de la majorité présidentielle et des gouvernants, puisqu'on a vu, là on voit ce matin qu'on annonce pour les fonctionnaires une compensation intégrale de la CSG, on affiche bien cette chose-là. La semaine dernière, vis-à-vis des routiers, finalement on est revenu sur une partie de ce qu'instituaient les ordonnances et la réforme du Code du Travail, en remettant tout au niveau de la branche. On a vu également, devant la Fédération Française du Bâtiment, Emmanuel Macron revenir en partie, notamment sur les prêts à taux zéro et sur les avantages fiscaux concernant la rénovation énergétique. Est-ce qu'il y a une crainte et une fébrilité vis-à-vis d'une cristallisation des oppositions ?
D'abord, je vous remercie de vous soucier de notre santé, si je puis dire. Moi,
c'est quotidien.
Et je voudrais vous rassurer là-dessus, très serein. Très serein. Et d'ailleurs, sur les différents sujets que vous avez évoqués, moi, j'aurais vous faire remarquer qu'il n'y a pas eu de variation, puisque sur les fonctionnaires, cela avait été annoncé par le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. La hausse de la CSG serait entièrement compensée. Donc il a été rappelé, ni plus ni moins, ce qui a été dit depuis le début sur ce sujet-là. Sur le sujet des routiers, aucune remise en cause, et d'ailleurs pas une ligne des ordonnances, n'ont été réécrites pour pouvoir trouver cet accord avec les routiers. Donc au contraire, il y a une continuité dans l'action de cette majorité, puisqu'il y a une détermination et un programme qui était extrêmement clair. C'est vrai sur le sujet du monde du travail, du marché du travail, mais c'est vrai aussi dans ce budget, puisque cela a d'ailleurs été plutôt noté, y compris par les oppositions. Le budget que nous présentons aujourd'hui, d'une part, il est sincère, mais d'autre part, et cela a été contesté par aucune opposition, d'autre part, il reprend intégralement, puisque nous présentons en réalité un budget sur 5 ans, l'ensemble des promesses de campagne que nous avons pu faire aux Français. Donc nous sommes ni plus ni moins en train d'appliquer
le programme pour lequel les Français nous ont élus. Concrètement maintenant, et ils se font une opinion, enfin les Français, les observateurs. Donc si vous voulez, entre un programme qui n'avait pas forcément été perçu comme tel et son application aujourd'hui concrète, il apparaît que, effectivement, c'est peut-être pas c'est un budget que les gens critiquent à ce moment-là, ce qui est peut-être normal. Il faut répondre à ces critiques.
Vous avez tout à fait raison, et je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est que nous en sommes dans un tel niveau de méfiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, par des décennies d'inefficacité de l'action politique, que d'une certaine manière, ma conviction, c'est que les Français y jugeront sur les résultats. Rendez-vous déjà fin 2018. Et fin 2018, qu'est-ce qu'ils verront ? Ils verront que sur leur feuille de paye, le salaire net a augmenté. Ils verront que sur leur feuille d'impôt, le taux d'imposition a diminué. Ça sera l'effet notamment des diminutions des cotisations salariales pour le travail et puis de cette suppression progressive en 3 années de la taxe d'habitation. Ça, ce seront des résultats concrets. On sera plus dans le débat théorique budget des riches, ISF et compagnie. Les Français verront que leur pouvoir d'achat a progressé.
Alors on en reparlera. Stéphane Robert, parlez de ce souci question. D'efficacité. Quand les députés se saisissent de cette mesure sur les yachts, qui va rapporter presque rien finalement, est-ce que vous craignez pas d'écorner cette image et ce souci d'efficacité que vous prétendez avoir à travers l'élaboration de ce budget ?
Pas du tout. Nous, je l'ai dit tout à l'heure, notre idée, c'était d'avoir un message. On parlait du prix Nobel d'économie et de l'économie comportementale. Bien, ouais. Nous y sommes. C'est intéressant, justement, d'avoir un message sans ambiguïté vis-à-vis des acteurs économiques. Il faut investir dans l'avenir de ce pays. Il faut investir dans l'innovation, dans les sociétés. Ce sont elles qui font la richesse de ce pays. Et donc, il n'y a aucune ambiguïté sur la suppression de l'impôt sur la fortune et son remplacement par l'impôt sur la fortune immobilière. Mais dans le même temps, on voulait éviter qu'il y ait des effets d'aubaine. Ce n'est pas du tout les amendements qu'on présente liés à l'ISF. Ce n'est pas du tout une traque, si je puis dire, obsessionnelle au signe extérieur de richesse. C'est simplement, rationnellement, d'éviter les effets d'aubaine. Avec 2 garde-fous. 1, pas d'usine à gaz. On ne crée aucune nouvelle taxe. On s'appuie sur des taxes existantes. Et 2, on fait attention de ne pas déstabiliser les filières concernées. Et ça sera le cas. Vous avez rappelé qu'on parle de 10 millions d'euros pour les yachts, de 30 millions d'euros pour les véhicules à plus de 36 chevaux fiscaux. Et donc, il n'y aura aucune déstabilisation des filières, mais simplement un effort rationnel pour éviter les effets d'aubaine.
Un tout petit mot peut-être sur la taxe sur les dividendes.
Parce qu'il faudrait quand même savoir si Bruno Latour, vous n'avez pas de yacht, vous. Vous n'avez pas de yacht.
Je n'ai pas de yacht.
Ah bon, d'accord, vous ne risquez pas la taxation. Bon, Stéphane Robert, je suis désolé, à moins que ce soit une question par oui, non, yes, no question. Bon, on va vous laisser là, vous allez retourner au Parlement, j'imagine, préparer ce budget, préparer la discussion, et puisque oui, le budget
cela commence cet après-midi en commission des finances.
Merci beaucoup, Stanislas Guérini, merci d'avoir accepté notre invitation. Un temps gris et humide sur la plupart des régions. Un soleil qui continue de dominer des Pyrénées jusqu'aux Alpes, des températures de 15 à 25 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.